explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Une immense gifle d'absolu, c'est ce que ressent Lydie Lescarmontier lorsqu'elle voit pour la première fois la mer se transformer en un gigantesque champ de glace à l'approche du continent antarctique. À tout juste 23 ans, elle participe alors à une expédition scientifique pour observer l'évolution d'un glacier. Cette expédition est la première d'une longue série pour notre jeune glaciologue qui est loin de se douter des aventures et des mésaventures qu'elle va vivre dans cet univers à part où les humains ne font jamais que passer. En Antarctique, les choses se déroulent rarement comme prévu. Lydie Lescarmontier va en faire l'expérience. Dans un livre intitulé « La voie des pôles » paru chez Flammarion, elle raconte ce qu'elle a vécu dans les glaces polaires, les moments de plénitude et les coups du sort, parfois tragiques. Cet après-midi, Lydie Lescarmontier nous emmène aux confins de l'océan Austral, là où naissent les icebergs, là où a grandi sa passion pour les pôles. Et en fin d'émission, comme tous les lundis, nous retrouverons Marc Giraud pour sa chronique « La nature en chemin ». Aujourd'hui, il nous emmènera à la découverte du coucou et de quelques autres oiseaux étonnants. Voilà pour le sommaire de cette émission, préparée par Claire Tesser et réalisée par Hélène Kouyoumdjian et David Leprince, avec à la technique Florian Dittre. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
De manœuvre générale, les équipes de navigation ont resserré leur poste. Le premier tir est en cap.
Là, on a un vent de 30 nœuds d'ouest. Il y a une mer 6 à peu près, des creux de 4 mètres. La météo est jamais très clémente, c'est toujours un peu agité. Les dépressions tournent autour de l'Antarctique, les unes après les autres, sans jamais être arrêtées par un continent, parce que c'est que de l'océan, quoi. C'est pour ça qu'elles sont méchantes et que la mer est formée, et jamais très très calme.
Il y a besoin d'ici et
bonjour Lydie Lescarmontier.
Bonjour Daniel.
Nous venons d'entendre le commandant de bord de l'Astrolabe, François Tristram, en 2019, au micro de Nicolas Martin de France Culture. Lydie Lescarmontier, ce brise-glace, l'Astrolabe, vous l'avez pris plusieurs fois pour atteindre l'Antarctique. Et la première épreuve, quand on monte à bord de ce bateau, c'est d'affronter cette mer terriblement agitée.
Oui, tout à fait. Et en plus, on s'y attend pas trop parce qu'en fait, on embarque sur le bateau et on va descendre d'abord la rivière Derwent qui sort d'Hobart. Ouais. Et donc, on avance tout doucement. On a l'impression que tout est calme.
Donc
et
là, on est en Tasmanie.
En Tasmanie, oui, tout à fait. Ouais. En Tasmanie. Et d'un coup, on arrive, on laisse les côtes de la Tasmanie, on arrive dans l'océan. Et moi, je me rappelle que mon tout premier embarquement, j'étais en train de prendre mon repas quand la mer a commencé à se former. Et j'ai pas fini mon repas. Il a fallu que je revienne très rapidement dans ma cabine parce que j'étais déjà bien malade.
Ouais, c'est pas pour rien qu'on surnomme ce bateau le Gastrolabe. Hein. Les premiers jours, apparemment, le bateau prend des allures de vaisseau fantôme. Tous les passagers, en tout cas ceux qui ne sont pas trop habitués à cette situation, se retrouvent cloués sur leur petite couchette.
Oui, c'est ça. Disons, 2-3 jours après le départ, on découvre des visages de personnes qui ont embarqué en même temps que nous à bord du bateau, parce qu'en fait, ils étaient cloués dans leur cabine. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps allongé, parce que c'est la meilleure manière un petit peu de gérer ce gros mal de mer.
Ouais, et vous racontez qu'à bord, tout devient une épreuve, hein, ne serait-ce que pour prendre une douche.
Oui, non, c'est vrai que l'épreuve de la douche, c'est quelque chose. Il y a deux, trois petites techniques en fait à apprendre, comment se bloquer dans la douche avec les coudes, comment ouais. Ranger ses vêtements pour être sûr qu'ils finissent pas au sol, baignés dans l'eau qui sort du bac de douche. Ouais. Donc c'est intéressant.
Finalement, c'est peut-être ça l'aventure, écrivez-vous, une leçon de modestie imposée par les éléments, quand le plus anodin, le plus quotidien de nos faits et gestes, manger, digérer, se laver, se déplacer, cesse d'être naturel pour se muer en exploit.
Oui, ouais, c'est vraiment ça. Se dire qu'on peut finir une journée en ayant fait ses repas, en étant propre aussi, c'est déjà une petite victoire sur une journée sur l'Astrolabe.
Vous aviez 23 ans quand vous embarquez à bord de ce bateau, jeune chercheuse. Vous avez pour mission d'aller relever les mesures prises par des instruments sur un immense glacier, le glacier Mertz. Un glacier qui s'apprête à veler. Habituellement, ce sont les vaches qui vêlent lorsqu'elles mettent bas. Qu'est-ce que ça veut dire pour un glacier de véler?
Alors le glacier, c'est exactement comme la vache, c'est pour ça que ce mot a été repris de nos campagnes finalement. Mais ce glacier, il va avancer, il va former cette glace au fur et à mesure du temps et former aussi le futur iceberg, jusqu'à ce qu'à un moment donné, une fracture, une crevasse permette de séparer l'entité, donc le glacier, de son iceberg, qui va ensuite devenir quelque chose à part entière.
C'est-à-dire qu'il tend une langue de glace qui d'abord flotte sur l'eau et puis petit à petit, au bout d'un certain temps, se détache. Et dans le cas du glacier Mertz, cet événement survient de façon cyclique, régulièrement.
C'est ça, exactement. En fait, il y a un moment donné où la langue de glace est tellement longue et elle va se développer sur l'océan et à cause des courants côtiers, à cause de la marée, etc., elle va subir trop de stress finalement et toutes les fractures, les petites crevasses qui se développent à sa surface vont s'ouvrir et là, on va avoir cet iceberg qui se forme. Et pour le glacier Mertz, c'est tous les 70 ans.
Ouais. Et vous arrivez pile au bon moment, finalement, concours de circonstances. C'est ce que vous dit celui qui deviendra votre responsable de thèse, c'est la chance du siècle, sauf mauvais coup du sort, on assistera à l'accouchement en direct. Et ça, c'est une première en glaciologie, on n'a jamais vu véler en direct avec tous les instruments pour mesurer ce qui se passe sur un glacier.
C'est ça. Et en fait, Benoît, lui, il suit cet événement depuis déjà les années 2000, donc ça fait quasiment 8 ou 9 ans qu'il regarde les fractures se former à la surface du glacier Mertz en se disant, tiens, on se rapproche en fait de ce cycle des 70 ans. C'est intéressant d'observer un petit peu ce qui se passe pour ce glacier et peut-être aussi de monter un projet scientifique autour du glacier Mertz pour pouvoir mesurer tous les processus qui sont liés à l'ouverture des crevasses et à la formation d'un iceberg.
Au départ, vous entrez dans ce laboratoire presque par hasard, c'est un peu un concours de circonstances. Vous venez pour un stage où vous étudiez ce glacier uniquement à travers des données. De fil en aiguille, vous vous retrouvez embarqué, on vous propose de faire une thèse sur ce glacier, vous ne refusez pas, et voilà comment en octobre 2008, vous vous retrouvez à 23 ans, à bord de l'Astrolabe pour la première fois. Qui est à bord de ce bateau avec vous, 45 passagers, qui sont ces gens qui embarquent avec vous?
Alors, il y a une dizaine de membres d'équipage, donc voilà, c'est tous ceux qui vont permettre de faire fonctionner le bateau. Il y a aussi le cuistot, les intendants, etc. Ensuite, il y a dans les passagers, il va y avoir les hivernants, donc c'est souvent des volontaires, des jeunes volontaires, qui vont partir sur la station du Mont d'Urville pour y travailler pendant un an et demi. Et on les appelle les hivernants parce qu'eux, ils passeront l'hiver en tout petit groupe d'une vingtaine, 20, 25 personnes. Et ensuite, il y a les campagnards d'été. Donc, eux, ça va être un mélange à la fois de scientifiques qui sont là pour des missions ponctuelles de quelques semaines à quelques mois, mais aussi tout le personnel technique qui va s'occuper de soit apporter des améliorations à la station, mais aussi de travailler au ravitaillement par le bateau, etc.
Vous ne devez faire que quelques jours sur place. Vous profitez, on appelle ça une rotation, de la rotation de ce bateau qui vient ravitailler la base du Mont d'Urville. Et vous êtes donc à bord. Un hélicoptère est censé vous transporter jusque sur le glacier pendant quelques jours et puis vous repartirez avec le bateau. C'est une mission éclair, en fait, que vous avez à mener. Alors, à bord de l'Astrolabe, on l'a dit, tout ce petit monde tant bien que mal traverse les 40e hurlant, les 50e rugissant. Et puis arrive un moment où le bateau s'apaise, il atteint enfin les premières glaces de mer, ce que l'on appelle le pack. À ce moment-là, sur le pont du bateau, la bonne humeur règne.
Ça, c'est énorme, c'est vraiment le top, quoi.
Qu'est-ce qu'on voit là?
On voit un petit Adélie à qui on fait peur, et du coup qui court sur son caillou, enfin l'équivalent d'un caillou qui est un morceau de glace.
On est en train de traverser une large bande de pack relativement dense, donc c'est de la glace de mer à l'infini devant nous. Le bateau qui est en train de passer cette bande de glace épaisse d'un mètre à deux. Voilà, donc ça frotte contre la coque. Il y a des à-coups puisque le bateau tend à taper dans la glace. Puis ce spectacle aussi d'oiseaux marins qui survolent ce pack à la recherche de nourriture.
Il y a un phoque là, juste à côté. C'est un Védel.
C'est ça, un phoque de Védel, c'est exactement ça. Et puis c'est Fulmar Antarctique, c'est David Ducal, c'est Pétrel Antarctique, Océanide de Wilson, Prion. Des dizaines d'espèces différentes. Et puis ces couleurs, ce blanc qui n'est pas vraiment blanc, qui passe du bleu turquoise avec les reflets de l'eau là. Personnellement, ça me donne beaucoup de sensations de sérénité, de paix. Je pense que la plupart des gens, c'est ce qu'ils ressentent. Hein.
Un nouvel extrait de la série Un été en Antarctique de Nicolas Martin de France Culture. Nous étions donc sur le pont de l'Astrolabe avec le biologiste marin Jérôme Fournier. L'idylle escarmentier, cette sérénité lorsque le bateau évolue à travers la glace de mer, vous l'avez ressenti lors de ce premier voyage ?
Oui, complètement. Et je pense que vraiment tout le monde le ressent. Bah déjà, il y a un premier fait, c'est qu'on vient de traverser 3-4 jours de mer où on a été extrêmement malade et d'un coup c'est calme autour de nous, le bateau est totalement stable et puis surtout on découvre un monde imaginaire, on a vraiment l'impression d'arriver dans un monde complètement à part qu'on a pu voir à travers des photos, des reportages, mais qui reste complètement nouveau pour nous parce que là il y a toutes les sensations qu'on n'avait pas forcément en regardant une photo qui s'ajoutent, donc tout ce qui est l'odeur, tout ce qui est le son, les vibrations du bateau dans la glace, et ça c'est très impressionnant.
Vous écrivez, c'était comme le premier matin du monde, du blanc, rien que du blanc, à l'infini. Ce premier choc, je ne l'oublierai jamais. Rien ne vous prépare jamais à la première rencontre avec les pôles, à cette immense gifle d'absolu. L'air lui-même que j'aspirais à plein poumon avait une saveur inconnue. Fermant les yeux, j'essaie de la définir comme le nez d'un parfumeur se concentre sur une fragrance. En vain, hormis peut-être un soupçon d'iode, c'était une odeur sans odeur, juste une quintessence de fraîcheur. Il y a l'impression d'arriver sur une autre planète.
Complètement. Et c'est vrai que cette odeur que j'essaye de décrire, qui est en fait une odeur un peu de fraîcheur et de rien, c'est quelque chose que je retrouve systématiquement près des glaciers ou quand je me retrouve dans la banquise. Et d'un coup, ça me reprojette à ce moment-là. Et c'est vrai que je me rappelle vraiment arriver dans cet environnement et me dire il faut que je m'en imprègne, il faut que ça reste parce que c'est trop précieux.
Alors après cette gifle d'absolu, vous allez vous prendre un autre coup sur la tête, moins poétique celui-ci. Tout d'un coup, l'ambiance se tend à bord de l'Astrolabe. Un morceau de glace s'est pris dans une des deux hélices du bateau. Et ça va avoir de très fâcheuses conséquences pour vous.
Oui, complètement, puisque il faut imaginer, donc moi c'est mon tout premier embarquement, j'arrive dans la banquise, on est en train d'essayer de guetter les manchots, on découvre cet environnement, et là on nous annonce cette nouvelle, mais ça fait peut-être 24 heures ou 2 jours qu'on est maximum, qu'on est dans cette glace. Et on nous annonce qu'en fait il va falloir qu'on fasse demi-tour, parce que cette hélice est sacrifiée finalement, et on ne peut pas prendre de risques supplémentaires, il faut qu'on revienne en Tasmanie.
Alors on imagine la déception à ce moment-là, pour vous, l'idylle escarmentier, tout ce temps de préparation, tous ces jours passés en mer à affronter les éléments pour rentrer bredouille. Mais vous n'en avez pas fini avec l'Antarctique, l'idylle escarmentier. Votre programme de recherche prévoit que vous y retourniez chaque année pendant 4 ans. Ce que vous ne savez pas encore à ce moment-là, c'est que vous n'êtes qu'au début d'une longue série de péripéties et même de drames, parfois. C'est ce que vous allez nous raconter. L'idylle escarmentier nous emmène dans les glaces de l'Antarctique cet après-midi sur France Inter, le temps d'un bivouac particulièrement mouvementé.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans, mais j'entends leurs pas dans le désert. J'entends leurs pas dans la prairie. En ville, sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent. Je les entends faire des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a un au bord du Nil, il y en a une dans un cul-de-sac, un autre accroupi dans la flaque, le doigt dans une anémone, le rire qui carillonne, la face qui rayonne. Une autre au bout de ses efforts, emportée dans la mort, l'amour, le carbone. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a une aux quatre vents qui regarde l'horizon. Il y en a deux sans solution parmi les renoncements. À l'âge de fer, il frissonne à l'air du pétrole. Lassé des belles paroles, il frissonne. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
C'était Bertrand Belin qui chantait L'inconnu en personne sur France Inter.
Donc là, il est 1h30 du matin et on regarde ces glaces qui passent avant d'arriver au glacier Mertz. On regarde tous les morceaux de glace dérivant et on les voit bien clairement, car il fait encore jour à 1h30 du matin.
On sent qu'on rentre dans, je sais pas, dans un autre monde, quoi. C'est pas chez nous. Je pense que je vais pas aller me coucher aujourd'hui. Ça va être dur demain, mais là, c'est trop beau.
Extrait d'un documentaire de Thalassa diffusé en 2017, les passagers d'un brise-glace russe fascinés par les glaces de l'Antarctique à l'approche du glacier Mertz. Notre invité, Lydie Lescarmentier, raconte dans un livre intitulé « La voie des pôles » chez Flammarion les expéditions qu'elle a menées pour aller étudier ce glacier Mertz. Ce glacier, Lydie, avant même de l'avoir approché, à force d'avoir étudié les cartes, les données scientifiques le concernant, vous dites que vous en étiez tombée amoureuse à ce point ?
Oui, parce qu'il est porté par une histoire déjà qui est assez chargée. Et puis c'est vrai que quand on regarde cette côte, c'est un glacier qui a une langue de glace, voilà, qui s'avance vraiment sur l'océan, qui est très visible et qui est très particulier avec cette fracture qui commence à s'ouvrir. Et oui, il attire vraiment la curiosité.
Ouais. Alors, il porte le nom d'un alpiniste suisse, Xavier Mertz, ce glacier. Pourquoi ce nom ? Quelle est l'histoire de Xavier Mertz ?
Alors, Xavier Mertz, il faisait partie de l'expédition de Douglas Mawson. Donc, ils étaient trois. Il y avait donc Mawson, Mertz et Ninis, un médecin. Et en fait, Mawson était un explorateur australien. Et donc, l'idée pour eux, c'était d'aller cartographier cette partie de la côte de l'Antarctique. Ils sont partis à trois, rapidement. Ninis, en fait, est tombé dans une crevasse avec le traîneau qui était chargé des provisions. Donc,
ils ne sont plus que deux et ils ont plus de vivres.
Ils ont plus de vivres, donc ils doivent faire demi-tour. Et sur le retour, ils ont mangé leur chien, et notamment le foie des chiens qui est très chargé en vitamine A. Et donc Mertz tombe malade et pendant la nuit, en fait, pendant son sommeil. Et le lendemain matin, Mawson découvre son corps et le jette dans une crevasse qu'il nomme du coup du même nom.
Et c'était une crevasse de ce glacier qui porte aujourd'hui le nom de Xavier Mertz. Sauf qu'il y a une rumeur, il y a une petite incertitude. Certains disent que Mawson n'aurait pas jeté le corps de Xavier Mertz dans ce glacier, mais il s'en serait nourri parce que c'est comme ça qu'il a survécu. Alors, si bien que quand vous partez en Antarctique, une fondation qui porte le nom de Mawson vous demande un peu de réhabiliter Mawson, en tout cas de le dédouaner de cet éventuel forfait, en vous disant, si vous voyez le corps de Mertz, dites-le nous. Vous aviez en plus cette mission de retrouver le corps de Mertz.
Oui, ils sont venus nous approcher quand on était encore à l'université, juste avant de partir en mission, en nous disant, voilà, on recherche ce corps parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mmh. Et d'après nos calculs, par rapport à la date de l'événement, on sait que ce corps devrait être proche, en fait, des GPS que vous devez installer. Oui. Et donc, bien sûr, on sait que, voilà, vu les dimensions du glacier Mertz, c'est quasiment impossible. Mais quand même, Benoît et moi, quand on a survolé le glacier, on s'est dit, bon, on va quand même jeter un coup d'œil.
Il y avait quand même peu de chance, hein, parce que cette histoire s'était produite un siècle plus tôt. Hein. On peut imaginer quand même que le corps avait disparu, enseveli dans les glaces. Votre mission principale, c'était évidemment d'aller rechercher ces GPS qui avaient été disposés 2 ans auparavant pour récupérer les données recueillies et comprendre ce qui se passait au niveau de ce glacier. Cette fois-ci, ça marche. C'est-à-dire que l'Astrolabe vous amène suffisamment proche pour que les hélicoptères vous déposent sur le glacier. Mais là encore, ça ne se passe pas exactement comme prévu. Tous les GPS sont difficiles à retrouver. Il y en avait 4 à retrouver. Hein.
Et oui, il y en avait 4 à retrouver. Et en fait, ils avaient été installés 2 ans auparavant, donc l'année avant ma première mission. Et on découvre en fait qu'il neige relativement beaucoup sur le glacier Mertz, à tel point qu'en fait, on récupère une seule balise et il n'y a plus que l'extrémité de la balise, donc vraiment les derniers centimètres qui sont encore visibles depuis l'hélicoptère.
Donc, alors que c'était des balises qui devaient faire 1 mètre, 1,50 mètre.
1,50 mètre de haut, oui.
Elles ont été recouvertes.
Complètement recouvertes de neige. Donc on voit qu'il y a à peu près 1 mètre de neige par an. Et pour récupérer notre récepteur GPS, on est obligé en fait de creuser finalement dans la neige pour le sortir. Et c'est le seul qu'on aura récupéré sur les 4.
Tout de même, qu'est-ce que vous avez ressenti quand enfin, après 2 ans d'études à distance de ce glacier dont vous étiez tombée amoureuse, vous avez enfin pu fouler la glace du Mertz?
C'était très particulier, surtout que je ne m'attendais pas vraiment à ce type de paysage, parce que se poser sur le glacier Mertz, c'est... Bon, bien sûr, c'est du blanc à l'infini, on ne voit plus la côte, on voit vraiment un désert. Et il y a des sastrugis, qui sont en fait des petites dunes, qui sont formées à la surface du glacier, qui donne vraiment cette impression de Sahara, de désert chaud. Mmh. Et ça, c'est très impressionnant.
Ouais. Alors, vous ne rentrez pas bredouille de cette deuxième expédition en Antarctique. Vous avez réussi à récolter quelques données et vous avez installé aussi de nouveaux instruments pour suivre l'évolution du glacier. Et il va évoluer beaucoup plus vite que vous ne le pensiez, Lydie Lescarmontier. 3 mois après votre retour, votre glacier s'invite dans les journaux télévisés.
Notre image du jour, elle nous emmène très loin, en Antarctique. Un énorme iceberg de la taille du Luxembourg s'est détaché d'un glacier il y a de cela quelques jours. Auparavant, il avait été percuté par un autre iceberg géant d'une centaine de kilomètres de long. Un événement qui n'est pas directement lié au réchauffement climatique, mais il y a forcément une relation. Le cisaillement du glacier de Mertz et la présence de 2 icebergs mobiles dans cette zone auront plusieurs conséquences, notamment sur la fameuse colonie de manchots empereurs. Souvenez-vous, rendu célèbre par le film de Luc Jacquet, La marche de l'empereur.
Extrait du 19-20 de France 3 en février 2010, le glacier Mertz vèle, mais d'une manière que vous n'aviez pas imaginée, Lydie Lescarmontier. Encore une fois, ça ne se passe pas comme prévu.
Non, mais c'était le cas chaque année finalement. Il y avait ce fameux iceberg, l'iceberg B9B, qui était installé sur des hauts fonds, donc des petites montagnes sous-marines, depuis plus de 20 ans. Et en fait, il faisait complètement partie du paysage, on ne le regardait même plus, parce qu'il faisait partie des cartes. Et en fait, cet iceberg, de façon complètement inattendue, il s'est mis à bouger quelques jours avant le levelage du Mertz et à tourner. Et en tournant, en fait, il est venu taper dans la langue de glace du glacier et donc ouvrir les derniers kilomètres de fracture et donc former l'iceberg.
Le levelage se fait par accident. On pourrait dire que l'accouchement se fait au forceps, mais avec un beau bébé. Hein, la taille de cet iceberg est gigantesque. Donnez-nous un peu les dimensions de cet iceberg.
Alors, le glacier, déjà, il fait 150 kilomètres de long par 35 km de large. Et là, il vèle un iceberg qui fait 80 km de long par à peu près 35 km aussi de large.
400 mètres d'épaisseur. Pour comparer, c'est la taille, vous comparez ça à l'île de la Réunion.
Oui, c'est ça. Oui, ouais, complètement.
C'est gigantesque comme iceberg. Et se trouvent dessus les instruments que vous aviez posés. Donc là, vous vous dites, Lydie Lescarmentier, mais je vais faire la thèse du siècle. J'ai appareillé ce glacier de GPS d'un côté et de l'autre de la fracture. Et voilà qu'il vient de se détacher. Je vais avoir des données formidables. Sauf que votre histoire, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Et à partir du moment où vous voulez retourner sur ce glacier, là encore, vous vous heurtez à tout un tas de complications et de difficultés.
Ah oui, jusqu'au bout, ça aurait été compliqué. donc, il faut imaginer qu'on est au mois de février, donc il y a cet événement qui a lieu, et en fait, c'est en plein milieu de la saison d'été. Et donc, l'Astrolabe est utilisé en permanence. On est déjà très en retard sur les calendriers. Mmh. Et donc, l'Institut Polaire décide de pas aller proche du glacier Mertz pour...
Et puis de ne pas vous embarquer, surtout, ils ne veulent pas vous embarquer pour que vous puissiez aller regarder votre glacier. Alors vous êtes obligé d'attendre, vous allez attendre octobre suivant, plus de 6 mois, pour enfin essayer d'aller rechercher ces glaces. Et là, une fois de plus, il va y avoir des incidents, ça ne va pas être possible. Je laisse une partie du suspense à vos lecteurs, mais tout de même, vous allez devoir abandonner la mission, rebrousser chemin. Et il va y avoir beaucoup plus grave cette fois-là. À bord de l'Astrolabe, la décision est prise d'envoyer, puisque le bateau est bloqué, ne peut pas avancer, la décision est prise d'envoyer les deux hélicoptères pour assurer le ravitaillement de la base du Mont d'Urville. Et l'on entend à nouveau parler de l'Antarctique au journal télévisé du soir, mais cette fois pour annoncer un drame.
Hier, en fin d'après-midi en Antarctique, deux hélicoptères quittent l'Astrolabe, le navire qui les a cheminés pour effectuer la relève et le ravitaillement de la base du Mont d'Urville. Les conditions météo autour du bateau et de la base d'arrivée sont jugées bonnes par les équipages. Les hélicoptères prennent leur envol à 20 minutes d'intervalle. Le premier rejoint du Mont d'Urville après 1h30 de vol. Le second n'est jamais arrivé. Sa balise de détresse est déclenchée à 100 km de la base.
Un avion américain et un avion australien ont survolé la zone malgré le mauvais temps. Et les conclusions, donc, ce qu'ils ont pu observer, soit par des images radar, soit par une vision directe du lieu de l'accident, c'est qu'il s'agissait effectivement d'un accident et non pas d'un posé volontaire de l'hélicoptère, que malheureusement l'hélicoptère était très fortement endommagé, et malheureusement également, ils ont pu apercevoir trois corps autour de l'épave.
La voix affectée, et on le comprend, de Yves Fresneau, qui dirigeait l'Institut Polaire à cette époque. Le corps sans vie du quatrième occupant de l'appareil est retrouvé peu après. Une chapelle ardente est dressée à la base scientifique du Mont d'Urville. Lydie Lescarmentier, on sait aujourd'hui ce qui est arrivé à cet hélicoptère?
Oui, en fait, on l'a compris très très vite. En fait, c'est un phénomène météorologique qui s'appelle le jour blanc. Et c'est assez craint, en fait, des pilotes, d'ailleurs. Puisque c'est un moment, en fait, où quand le mauvais temps arrive, on ne voit plus du tout l'horizon. Donc, il n'y a plus de différence entre la banquise en bas et le ciel blanc en haut. Et comme en hélicoptère, la navigation se fait à vue, et ben les pilotes peuvent se perdre dans ces... trois dimensions.
Alors vous avez vu cet hélicoptère décoller de l'Astrolabe. On imagine la chape de plomb qui s'est abattue sur le brise-glace à ce moment-là. Ça a ébranlé votre motivation. Vous vous êtes interrogé sur ce que vous faisiez là, à prendre ces risques pour étudier ce glacier.
Oui, je pense qu'on s'est tous, interrogés, oui. C'est sûr qu'on ne peut pas rester de marbre face à un événement comme ça, parce que Voilà, il faut imaginer qu'on est dans un environnement magnifique, on est tous heureux d'être là, on a tous voulu être là. Et c'est vrai que quand il y a ce genre d'événement, ça nous rappelle déjà qu'on ne maîtrise pas toute la situation. On est en Antarctique et on est encore à la merci de ce milieu. Et ça, forcément, ça nous fait réfléchir à qu'est-ce qu'on fait là, est-ce que ça vaut vraiment la peine ?
Vous avez manifestement répondu à cette question positivement, ça vaut la peine puisque vous allez repartir l'année suivante et là encore, ça ne se passera pas comme prévu. Vous allez, Lydie Lescarmentier, nous raconter comment vous vous êtes retrouvée prisonnière, cette fois des glaces de l'Antarctique. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac. Distraction, c'était Zero Seven sur France Inter.
Pour toi, est-ce que le cap est bon pour entrer dans le pack ?
Oui, affirmatif, tu pourrais même venir de 10 degrés sur la droite.
En reçu, je prends 10 degrés sur la droite.
La navigation dans la glace, c'est pas difficile, c'est simplement qu'il faut vraiment anticiper pour pas se retrouver bloqué dans des plaques de glace de grande épaisseur. Donc c'est plus tactique et dans l'anticipation que vraiment une difficulté en termes de rudesse des éléments. Quoi. Puis ce qui est beau, c'est tous ces albatros qui passent là, ces énormes albatros. Il y en a un qui fait plus de 3 mètres d'envergure là. C'est très majestueux. pas un mouvement d'aile. Ah, c'est incroyable.
À nouveau, François Tristram, le commandant de l'Astrolabe, avec cet extrait « Un été en Antarctique » de Nicolas Martin sur France Culture. Je précise que cette série de reportages de Nicolas Martin est encore podcastable. Nous avons mis un lien sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr. L'idylle escarmentier, comme on l'entendait, c'est tout un art de naviguer dans le pack de glace qui borde le continent blanc.
Oui, oui, et puis il faut imaginer que moi, mon tout premier embarquement, on n'avait pas encore de carte satellite, en fait, de la banquise. Ouais. Donc c'était vraiment de la navigation à vue.
On était pourtant dans les années 2010, entre 2008 oui. et 2011, vous avez
oui,
fait
c'est ça,
ces
oui, c'est pas si vieux que ça. Ouais. Et il faut imaginer que du coup, souvent, les membres d'équipage étaient avec les jumelles un petit peu en hauteur pour ouais. essayer de voir où est-ce qu'on peut passer. Donc ça reste très proche, en fait, des façons de naviguer des explorateurs,
ouais, finalement. C'est ça, on navigue à vue. Et en octobre 2011, vous repartez sur l'Astrolabe. Ça fait 3 ans que vous travaillez sur ce glacier Mertz, à ce moment-là, avec peu de résultats, beaucoup d'aventures, mais pas beaucoup de résultats. C'est votre 4e expédition. À bord, avec votre responsable de thèse, on vous surnomme un peu les chats noirs, parce qu'à chaque fois que vous êtes monté à bord de ce bateau, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Et une nouvelle fois, ça ne va pas se passer comme prévu. Qu'est-ce qui vous arrive cette fois ?
Alors cette fois-ci, on est resté coincé sur le bateau, pris par la banquise pendant 56 jours. Ce qui paraît pas non plus incroyable.
Quand même, deux mois sur ce bateau, bloqué dans les glaces.
Ça fait quand même la moitié de la campagne d'été, oui, effectivement.
Ça paraît long, c'était pas prévu comme ça. Au bout d'un moment, les vivres viennent à manquer à bord du bateau.
Oui, oui, c'est ça. C'est qu'on n'était pas prévu de rester aussi longtemps, aussi nombreux sur le bateau, et sans aller-retour jusqu'à Hobart, en fait, pour récupérer d'autres vivres. Et surtout, on ne savait absolument pas à quel moment ça allait se finir. Parce qu'encore, on aurait embarqué, on nous aurait dit, vous restez 2 mois à bord. On serait préparé, mais là c'était chaque semaine. Bon, bah finalement, il va falloir attendre ouais. 2 jours de plus et 2 semaines de plus.
Et vous avez l'impression, voilà, quelque chose de sans fin, d'immobile pour économiser le carburant, parce qu'on génère l'électricité à bord du bateau avec le carburant, mais parfois on coupe les moteurs. Donc là, silence absolu sur cette banquise. Vous dites que parfois, par les hublots, vous avez l'impression qu'on a collé des posters tellement le paysage autour de vous ne bouge pas. Quelle est l'ambiance à bord de ce bateau transformé un peu en vaisseau fantôme ?
Mais elle est très particulière parce que, en fait, chacun a un petit peu sa manière de gérer ce confinement, finalement, oui. sur le bateau. Donc, il y a des personnes qui vont être très occupées. Moi, par exemple, j'étais en train de finir ma thèse, donc je finissais mon manuscrit, je travaillais énormément. Il y en a d'autres qui, au contraire, se mettaient vraiment à l'écart, se mettaient à la lecture et se mettaient à l'écart du reste du groupe, à essayer de prendre du temps, puis un petit peu s'isoler aussi, parce qu'on est tous au contact tout la journée. Et oui, l'ambiance est assez nébuleuse, finalement.
Ouais. Et alors, ce qu'on apprend là, c'est que votre thèse, vous avez quand même réussi, et c'est un tour de force, à la soutenir, et en plus brillamment, avec le peu de données que vous avez réussi à récolter sur ce glacier, finalement.
Oui, je me suis dit, j'ai peu de données, mais ces données, je vais les faire parler au maximum. Et donc, j'ai vraiment poussé, en fait, la précision dans l'analyse. Et grâce notamment à des collègues du CNES qui travaillaient sur des données GPS et des systèmes de traitement, j'ai réussi à apprendre pas mal de choses. Ouais.
Ouais. Ah, ça vous a appris en tout cas la ténacité à ne jamais renoncer à cette aventure. Et finalement, ces instruments de mesure que vous aviez posés sur ce gigantesque iceberg, vous ne les avez jamais récupérés?
Non, jamais. On a essayé plusieurs fois de retourner avec d'autres bateaux aussi que l'Astrolabe, de retourner sur cet iceberg et récupérer les GPS. Mais après, il faut imaginer qu'il a neigé, donc on s'est dit que rapidement ils allaient être sous la neige. Il a aussi la neige a aussi fondu en surface, donc toutes les aspérités, crevasses et tout ont complètement changé. Donc très rapidement, on s'est dit c'est impossible. Même si on y va, on n'arrivera ouais. jamais à les récupérer. Et puis cet iceberg s'est aussi cassé.
C'est ça, parce que cette histoire a 10 ans maintenant et l'iceberg a évolué. Il s'est fragmenté en des milliers de glaçons. Vous ne reverrez jamais ces données.
Non,
vous en
non
avez
il faut,
fait votre
il faut l'accepter.
Ouais, vous allez quand même par la suite retourner en Antarctique dans le cadre d'autres missions scientifiques en tant que glaciologue. Vous allez encadrer des thèses. Depuis, vous avez abandonné la recherche, mais pas votre passion pour les pôles. D'ailleurs, vous êtes aller dans l'Arctique en tant que guide conférencière. Je laisse le soin à un grand nom de l'aventure polaire, Paul-Émile Victor, de nous dire comment faire la différence entre l'Arctique et l'Antarctique.
Du point de vue géographique, l'Arctique est une mer entourée de terre, ces terres étant habitées par des populations indigènes, les Esquimaux. L'Antarctique, au contraire, est un continent au lieu d'être une mer, un continent où il n'y a pas d'habitants, et plus précisément où il n'y a pas de mammifères terrestres. Il n'y a par exemple pas d'ours blancs dans l'Antarctique, alors qu'il y a des ours blancs dans le Nord. Et pour faire une définition un peu humoristique, qui pourtant est vraie, si vous êtes dans une terre polaire sans savoir où vous êtes, si vous vous trouvez tout à coup nez à nez avec un ours blanc, c'est que vous êtes dans l'Arctique. Si vous vous trouvez nez à nez avec un pingouin, un manchot plus exactement, c'est que vous êtes dans l'Antarctique.
Paul-Émile Victor, en 1948, Lydie Lescarmentier, vous avez rencontré des manchots en Antarctique. Est-ce que vous avez rencontré des ours polaires en Arctique ?
Oh oui, oui, oui. Putain, oui, oui, effectivement.
Et c'est un souvenir plus impressionnant que les manchots ?
Oui, c'est un petit peu plus stressant, effectivement, que les manchots, parce que les ours sont, voilà, ils ont une carrure incroyable, ils ont une intelligence aussi qui est incroyable. Ils sont prêts à mettre en place des petites tactiques pour s'approcher de nous. Donc, ils sont assez remarquables.
Aujourd'hui, hein, vous n'êtes plus chercheuse, Lydie Lescarmentier, mais vous mettez vos qualités de scientifique et de pédagogue au profit d'une ONG, Office for Climate Change, qui fait de la vulgarisation scientifique, qui sensibilise les écoles dans le monde entier au changement climatique. Finalement, le pôle sud puis le pôle nord reste un axe de votre vie.
Complètement, ouais. C'est vrai que j'étais assez contente de pouvoir garder un petit peu toutes mes connaissances en fait de glaciologue et de pouvoir les mettre à profit et surtout de les partager avec le grand public et notamment les enfants qui sont en France ou un petit peu partout dans le monde.
Et puis vous les partagez avec votre ouvrage, hein, vraiment passionnant, ça se lit comme un roman et en plus régulièrement il y a des points scientifiques pour qu'on apprenne des choses sur la formation de la glace. Le livre s'intitule La Voix des Pôles aux éditions Flammarion. On a mis quelques photos de vos différentes missions sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac pour ceux qui, après avoir eu le son, voudraient avoir l'image. Restez avec nous dans un instant. Nous retrouverons Marc Giraud pour sa chronique La nature en chemin. Il va nous emmener à la rencontre de quelques drôles d'oiseaux. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there but I know she was your girl. You showed her the world. We fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Like a fever, like I'm burning. Did I cross the line? Well, good things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who was better, 'cause she could put it all behind me. C'était Wildflower, chanté par Billie Eilish. Et merci à Djoubaka qui signe la programmation musicale de nos bivouacs.
La nature, quand ça commence à être beau, c'est beau, hein.
Souvent, je me dis, mais comment fait la nature pour créer des choses aussi parfaites ?
Bonjour Marc Giraud.
Bonjour.
Naturaliste de terrain que l'on retrouve tous les lundis avec bonheur en fin d'émission pour aller observer la nature en bord de chemin. Et aujourd'hui, vous nous emmenez écouter les oiseaux et plus particulièrement le coucou avec cet enregistrement que vous nous avez apporté. Vous êtes sûr ? C'est vraiment un coucou ça, on s'est pas trompé ?
Ah, c'est vraiment un coucou. Écoutez bien. Mais c'est un coucou femelle, c'est une coucoute,
c'est ça,
c'est le patriarcat, ça. On ne connaît que le mâle. Ouais. C'est vrai qu'en général, ce sont les mâles qui chantent, mais là, c'est une femelle, c'est le gloussement de la femelle qu'on peut entendre et que personne ne reconnaît. Donc, c'est quand même un oiseau de chez nous qu'on connaît bien, il faut connaître aussi madame.
Et alors madame, il y a des choses à raconter sur la coucoute, comme vous dites ?
Ah, ses manières de pondre dans le nid des autres, c'est sûr. Ça vient de peut-être 20 millions d'années d'évolution. Et c'est très étrange de savoir comment ça leur est arrivé, parce que maintenant, une coucoute, ça ne peut plus s'occuper de ses petits.
Mmh. Oui, parce qu'on le rappelle, cet animal est un parasite. C'est-à-dire que tout le jeu pour le coucou, c'est d'aller faire ses œufs dans le nid des autres.
Dans le nid des autres, d'où son nom, cocu, coucou, il y a sûrement un
point commun
avec ça.
Ah, ça vient de là ?
Oui,
vraiment ?
Oui.
Ah oui, d'accord.
Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, presque tous les oiseaux, de temps en temps, l'oiselle pond dans le nid d'un autre. Ça peut arriver chez les étourneaux sansonnets, chez les buses variables. De temps en temps, hop, elle pond dans le nid d'un autre.
Par étourderie ou dans le but
comme
de
ça, pour
ne pas
parasiter. Mettre ses gènes dans le même panier, si je peux dire.
Ses œufs dans le même nid.
Voilà, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. Il y en a d'autres, par exemple les échasses et les avocettes, qui nichent un peu dans les mêmes milieux. Souvent, les femelles pondent dans le nid de l'autre espèce. Mm-hmm. Donc c'est un semi-parasitisme. Il y a encore un peu plus poussé avec des canards, la nette rousse et les fuligules, milouin, morillon, tout ça. Là, quelques individus femelles pondent tous leurs œufs dans le nid d'une autre.
D'accord.
Donc on voit toutes les étapes de l'évolution qui a conduit au parasitisme obligatoire, c'est comme ça que ça s'appelle, où la coucoute, là, elle ne peut pondre que chez les autres parce qu'elle ne sait plus faire autrement.
Alors comment elle procède exactement, là, la coucoute ? On dit vraiment coucoute parce qu'on l'appelle comme
non,
ça
depuis tout à l'heure. Non, moi je dis ça comme
d'accord,
ça.
Mais... Oui, bah, autant le dire. Alors en fait, on emploie un terme impropre depuis le début. Alors comment procède-t-elle, cette coucoute ?
D'abord, au moment de la reproduction, elle a le cerveau qui enfle.
Ah oui.
Parce qu'elle pond un œuf dans chaque nid, mais dans une douzaine de nids. Donc elle doit repérer tous les parents adoptifs, toutes ses victimes, connaître leurs horaires de sortie, si je puis dire, repérer tous les emplacements des nids. Donc elle a l'hippocampe qui grandit, elle a vraiment besoin de savoir. Et au moment où les parents partent, là, elle pond, mais très vite. Elle a une espèce de catapulte pour pondre et elle pond exactement en une minute, très vite, au moment où elle veut.
C'est-à-dire sur commande, elle sait oui. Quand elle pond et où elle pond, mais c'est elle qui décide.
Ah bah oui, elle n'a pas le choix, c'est vraiment au moment où les autres vont tourner le dos. Okay. C'est un peu comme si une femme accouchait après le jeu des millions d'euros parce qu'elle veut, avoir la fin. Quoi. Donc vraiment, elle fait ça sur commande. Et en plus, comme elle a 24 heures d'incubation de plus que les autres oiseaux, le petit, il va éclore avant.
Ah.
Et tout, la sélection naturelle a bien fait les choses. Hein.
Du coup, le petit, il ne voit jamais ses parents. Le petit coucou, c'est
assez non, incroyable. Tout est inné chez lui. C'est-à-dire que son chant, bon, qui n'est pas très sophistiqué, c'est vrai, il faut l'avouer, mais quand même, le trajet de la migration, personne ne lui a appris. Personne.
Ouais. Tout ça, c'est inscrit dans ses gènes.
Ouais.
Instinctivement, il sait la migration et le chemin qu'il doit prendre.
Ah ben oui, puisqu'il ne se trompe pas. Donc il revient tous les printemps et on l'entend à nouveau, ça marche depuis des millénaires.
Ouais. Et il sait aussi le parasitisme qu'il devra faire pour se reproduire, tout
absolument.
Ça est fait avec
et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des lignées de coucous femelles qui imitent des lignées de victimes. C'est-à-dire qu'il y en a qui font que des œufs bleus, par exemple, parce que leur victime a les œufs bleus, okay. D'autres des œufs crème tachetés, etc. Mmh. Parce que, en fait, les victimes sélectionnent les meilleures imitatrices.
Mmh.
Si l'œuf est mal imité, ils vont l'éjecter.
Mmh.
Donc, ils vont garder que les bons œufs. Mmh. Donc, les bons gènes de bonnes femelles qui font des œufs bien imités, et de génération en génération, comme ça, il y a des lignées de femelles coucou qui imitent super bien les œufs.
Mmh. Alors, en parlant d'imiter, vous avez sur la table un apo, et ça, c'est pour le
chant. Ah ben, ça, c'est le mâle, ça, tout le monde le connaît. Mais ce qu'on entend aussi de temps en temps, c'est quand le mâle est très excité, il fait ça. Voilà, ça vous rappelle peut-être quelque chose.
Oui. Ça, c'est il est excité au sens...
Il a vu une femelle, enfin okay. Il se passe des choses, ou un mâle concurrent, il se passe des choses.
D'accord, donc il est énervé positivement ou pas forcément. Oui. Allez, on termine avec un petit blind test d'oiseaux étranges de nos contrées, et pas seulement d'ailleurs. Oui. Alors, vous nous dites dans quelles circonstances on peut écouter ?
C'est beaucoup des nocturnes. Celui-là, c'est un nocturne. Si vous l'entendez sans savoir ce que c'est et que vous êtes près d'un cimetière, ben ça vous fait peur.
Ah oui, c'est assez terrifiant. Hein. On a l'impression d'un cri.
Ouais, voilà. Et en fait, ça effraie, d'où son nom, l'effraie, la chouette effraie, l'effraie des clochers.
D'accord.
Qui niche dans les granges, dans les clochers. On voit souvent les plottes de réjection. Elle est encore un petit peu commune.
Son cri est effrayant, mais...
Voilà, c'est tout. Ouais. Non, sinon, ça mange que des rongeurs. Oui. À chaque fois que le mâle ramène d'ailleurs un rongeur au nid, il a droit à un accouplement, donc il est très motivé. Oui. Donc non, c'est un dératisateur naturel.
Alors, deuxième écoute, alors vous nous présentez les circonstances.
Alors celui-là, c'est un héron nocturne, il faut aller dans les roselières. C'est pas facile, mais son cri, c'est le plus grave des oiseaux, 150 Hz à peu près. Ouais. Il porte à 5 km. Donc même si vous êtes assez loin, vous pouvez entendre ça.
Jusqu'à 5 km. C'est très étonnant comme son. Ça n'a pas du tout été trafiqué, là.
Non, mais c'est proche des cornes de brume, parce que les sons graves vont très loin, et c'est le butor étoilé.
D'accord. Ça ressemble à quoi ?
Alors, c'est un héron très strié. Quand on le voit de jour, il se dresse le bec en l'air et on dirait un roseau. Il est très, très camouflé. Okay. En fait, tous ces oiseaux qu'on entend bien sont très discrets visuellement.
Allez, troisième écoute.
Encore un crépusculaire. Alors, pour le voir, franchement, il faut faire en général de l'arpa, c'est-à-dire passer son cri justement pour l'attirer, ce qu'il ne faut pas trop faire. Ouais. Moi, je ne l'ai vu quasiment que comme ça ou par hasard, parce que, pareil, le jour, il est déguisé en feuilles mortes, on ne le voit pas, il est tapis au sol, on pourrait presque marcher dessus. Et la nuit, il se réveille.
On aurait presque pu le prendre pour une grenouille, hein, celui-là. Et donc, c'est un chant d'oiseau extrêmement rare. De quel oiseau
Il s'appelle l'engoulevent parce qu'il se nourrit en vol. Il engoule le vent. Vole bec ouvert.
Okay.
Et de temps en temps, il claque les ailes aussi. Là, on ne l'a pas entendu. Ça fait plaf, 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 plaf. Et c'est très énigmatique.
Allez, un quatrième.
On retourne dans les roselières. C'est une sorte de poule d'eau ou de bécasse. C'est un limicole. Et il fait un drôle de cri.
Un petit côté cochon presque, chez celui-là, ouais. Alors c'est...
Il pousse des cris de cochon, c'est le râle d'eau. Il râle, quoi, c'est ça. C'est pour plaire aux filles, et apparemment ça marche. Son cri d'amour.
En tout cas, chez les oiseaux. Bien. Vous en avez un peu plus exotique dans cette catégorie.
Vraiment, c'est mon petit bonus là, de l'été, parce que je suis allé écouter celui-là en Afrique, je ne l'ai pas vu. C'est un râle aussi. Je vous le dis à l'avance, il s'appelle le râle à pied rouge, et on a du mal à penser que c'est un oiseau. Mais je vous jure que je l'ai entendu et enregistré.
Ah oui, un singe un peu, on dirait qu'il y a quelque chose de l'ordre du singe.
Alors il y a quelques grenouilles, cigales, parasites, mais c'est rythmé.
Et bien on se quittera sur ces rythmes du râle à pied rouge enregistrés par les soins de Marc Giraud en Afrique. Je signale l'un de vos nombreux ouvrages, La nature en bord de chemin, aux éditions Delachaux et Niesley. Un grand merci à vous, Marc, et à la semaine prochaine.
Merci, ouvrez les oreilles.
Oui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes, y compris ceux des saisons précédentes, en vous rendant sur la page du Temps d'un bivouac sur franceinter.fr ou en utilisant l'application Radio France. Et merci, amis auditrices et auditeurs, pour les messages que vous nous laissez sur la page de l'émission, sur franceinter.fr et sur nos pages Instagram et Facebook. Le Temps d'un bivouac replie sa tente. À demain pour de nouvelles aventures.